نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع الأربعين النووية وها نحن وصلنا إلى الحديث الثامن. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, et nous sommes arrivés au 8e hadith. فنبدأ بقراءة الحديث. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai reçu pour commandement de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent la ilaha illallah et que Mohammed est le prophète d'Allah, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat. Et s'ils s'acquittent de tout cela, alors ils préservent de moi leur vie et leurs biens, excepté dans le cas où ils sont coupables au regard de l'islam. Et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam muslim, rahimahumullah. فَلْنَبْدَى بِتَرْجَمَةِ رَوِي الْحَدِيثِ. Donc commençons d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith. Wa rawi al-hadith huwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et le rapporteur du hadith c'est Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Abuhu Umar ibn al-Khattab wa ummuhu Zainab bint Maz'un wa kunyatuhu Abu Abd al-Rahman. أسلم بمكة وهو صغير وهاجر مع أبيه وأمه إلى المدينة. Et donc Abdullah رضي الله عنهما est le fils de Umar ibn al-Khattab et sa mère c'est Zainab bint Maz'un. La kunya de Abdullah c'est Abu Abd al-Rahman. Et il a embrassé l'islam très jeune et il a émigré à Médine avec son père et sa mère. رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويوم أحد لصغاره وأجازه في غزوة الخندق وكان عمره 15 سنة فشهدها وشهد ما بعدها من المواقع. Et le prophète صلى الله عليه وسلم s'opposa à la participation de Abdullah ibn Umar رضي الله عنه à la bataille de Badr parce qu'il n'avait que 13 ans. Il en fut de même pour la bataille de Uhud, car Abdullah ibn Mas'ud n'était âgé que de 14 ans. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisa à prendre part à la bataille des tranchées, Ghazwatul Khunduq. Et Abdullah ibn Umar avait alors 15 ans. Et ensuite, il a participé à toutes les expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha as-sahabiyyu al-jalil lahu manaqibu wa mawaqifu wa mawa'idhun kathira. Donc Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma est connu pour ses grands mérites et aussi pour ses positions en islam et pour certaines de ses exhortations. فمن مناقبه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. Parmi les mérites de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, c'est les éloges faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح والحديث رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit عبد الله est un homme pieux, عبد الله est un homme bien. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد ذلك لا ينام عبد الله من الليل إلا قليلا والحديث رواه البخاري ومسلم. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Abdullah, quel homme bien est Abdullah ibn Umar radiallahu anhu si il faisait la prière la nuit. Et après cette parole, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu ne dormait que très peu la nuit. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari et par l'imam muslim. ومن مناقبه رضي الله عنه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. Et parmi les mérites de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, c'est qu'il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était assidu à sa compagnie. يقول ابن عمر رضي الله عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال لي زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين قال إلى أنصاف الساقين والحديث رواه مسلم. عبد الله بن عمر nous dit je suis passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mon vêtement traînait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Abdullah remonte ton vêtement. Ce que Abdullah fit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit remonte encore plus ton vêtement. Et Abdullah dit depuis je faisais très attention à ne pas laisser traîner mon vêtement. Et les gens ont questionné Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma jusqu'à où le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé de remonter ton vêtement. Il a dit à mi-jambe ou à mi-tibia. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان بارا بوالده عمر في حياته وبعد موته. Et parmi les mérites de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, c'est qu'il était respectueux. Il gardait le lien de parenté avec son père Umar رضي الله عنه aussi bien durant sa vie que après la mort de son père. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حماره وكان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله ابن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر ابن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. Donc Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما nous dit qu'un homme parmi les Bédouins avait rencontré Abdullah ibn Umar sur le chemin de la Mecque. Et Abdullah ibn Umar l'a salué. Et il l'a mis avec lui sur son âne, sur sa monture. Et Abdullah ibn Umar avait un turban. Et il l'a offert à cet homme. Alors Ibn Dinar a dit et fait des invocations en faveur de Abdullah ibn Umar. Et lui a dit, ce sont des Bédouins. Ils se suffisent de peu de cette vie. Et alors, Abdullah ibn Umar lui dit, le père de cet homme, le père de ce bédouin, était l'ami de mon père, Umar ibn al-Khattab. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, le plus grand des biens est de maintenir les liens avec les amis de son père. وَلَهُ مَوَاقِفُ مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَرْبًا عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ. De même, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma avait des positions très connues chez les hommes de la science concernant son attitude envers l'innovation et envers les gens des passions. Abdullah ibn Umar combattait et condamnait l'innovation et les gens de l'égarement. Sami'a Abdullah rajulan atasa faqala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. فقال له ما هكذا علمنا رسول الله بل قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسول الله. وهذا الحديث في سنن الترمذي وحسنه الألباني. فلو فعل ذلك رجل الآن فأنكرنا عليه لقال الله أكبر الصلاة على رسول الله حرام. Abdullah ibn Umar a entendu un homme, après avoir éternué, dire « Alhamdulillah » et il a rajouté cet homme « Wassalatu wassalamu ala rasulillah ». Alors Abdullah ibn Umar lui a dit « Ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. » Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise « Alhamdulillah » et qu'il ne fasse pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Et le hadith est rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Et regardez, si aujourd'hui un homme, une personne, au moment d'éternuer, dirait Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah, on ferait à cette personne le même reproche qu'a fait Abdullah à cet homme nous dirait Allahu Akbar, même la prière sur le prophète, vous nous l'avez interdite, à cause de l'ignorance des gens de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens commettent des bida'a, des innovations dans la religion, et lorsque on lui apporte le conseil, ils disent Allahu Akbar, vous nous empêchez d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min nawa'idhihi radiyallahu anhu, kana yuthni ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ya'muru bittiba'ihim. Et parmi les exhortations de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, c'est qu'il faisait des éloges sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous ordonnait de les suivre. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كان مستنا فليستنى بمن قد مات أولئك أصحاب محمد كانوا خير هذه الأمة وكانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقله وإقامة دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد كانوا على الهدي المستقيم. Donc Abdullah ibn Umar a dit, celui parmi vous qui cherche le modèle ou l'exemple à suivre, qu'il suit l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ces hommes étaient les meilleurs de cette communauté, ceux dont le cœur était le plus dévoué, dont la science était la plus ancrée. Ce sont un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre et établir la religion d'Allah. Imitez-les dans leur comportement et dans les chemins qu'ils ont empruntés, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient sur la voie droite. Regardez ces belles paroles de Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud. وكان عبد الله بن عمر من فقهاء الصحابة بل من أشدهم تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر était connu pour être parmi les plus érudits et parmi les plus savants des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il est connu pour son attachement à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله بعد أبي هريرة. روى 1630 حديثا منها 170 مروية في الصحيحين. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma est connu pour être celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Abu Huraira radiallahu anhuma. Il a rapporté à Abdullah ibn Umar 1630 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 170 se trouvent dans l'authentique de l'imam Bukhari et dans l'authentique de l'imam Muslim. Wa tuwfiya radiyallahu anhu bi Makkah sanata 73. Et Abdullah ibn Umar radiallahu anhu est mort à l'âge de 73 ans. Et il est mort à la Mecque radiallahu anhu. هذا فيما يتعلق براوي الحديث وهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. Donc ceci concernait une brève biographie concernant Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, أبو عبد الرحمن, le fils de Umar ibn al-Khattab رضي الله عنهما. والآن نتحدث عن منزلة الحديث. لماذا هذا الحديث عظيم حتى اختاره الإمام النووي وجعله في الأربعين النووية. Maintenant nous allons voir l'importance de ce hadith et pourquoi l'imam Nawawi rahimahullah a-t-il choisi ce hadith et l'a-t-il mis dans les 40 hadiths connus de l'ahadith النووية. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين. L'imam ibn Daqiq al-Eid rahimahullah dit: ce hadith est d'une extrême importance et il constitue un fondement de notre religion. وقد اشتمل هذا الحديث على بعض أصول الدين الإسلام والصلاة والزكاة وبين حرمة دم المسلم وماله. Ce hadith traite de différents fondements de la religion. Il traite de l'islam, il parle de la salat, il parle de la zakat, et il rappelle le caractère sacré de la vie et des biens du musulman. Voilà pourquoi ce hadith est important. Maintenant nous allons voir quelles sont les leçons à retenir concernant le hadith de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. Et nous allons citer 16 leçons à retenir inshallah ta'ala. الفائدة الأولى الغرض من بعثة الرسل نشر التوحيد وإعلاء كلمة الله وذلك بإسلامهم لله أو بضرب الجزية عليهم أو بقتالهم عند امتناعهم لأن أحب ما يكون عندهم هو أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فالمحافظة عليها تحثهم على الدخول في الإسلام. La première leçon à retenir concernant le hadith de Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, c'est le but et l'objectif des prophètes et la mission pour laquelle les prophètes ont été envoyés, c'est de propager le tawhid, l'unicité. Et c'est aussi que la parole d'Allah soit la plus haute. Et cet objectif s'atteint soit par le fait que les gens embrassent l'islam et se soumettent par eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit en les faisant payer les impôts, ou soit en les combattant s'ils refusent. Parce que ce qu'il y a de plus cher chez les gens, c'est leur vie, c'est leur honneur et c'est leur bien. Et préserver la vie, préserver leur vie, leur honneur et les biens, les poussera peut-être à embrasser et à rentrer dans l'islam. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. Et cette leçon, cette première leçon à retenir se trouve dans la parole du prophète, où le prophète صلى الله عليه وسلم dit: on m'a ordonné de combattre, de lutter contre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent « La ilaha illallah » et que Mohammed est le prophète d'Allah. Et qu'ils accomplissent la prière, qu'ils donnent la zakat. Et s'ils s'en acquittent, alors ils préservent leur bien et ils préservent leur vie. الفائدة الثانية لفظ أمرت في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا الفعل يقتضي أن هناك من أمر بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن هو الآمر؟ الآمر هو الله تبارك وتعالى. فالله هو الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وعن شرعه. La deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est le verbe umirtu, on m'a ordonné de. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, j'ai reçu pour ordre ou on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat. Ceci implique et sous-entend qu'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'islam. Et celui qui a donné cet ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le législateur et celui qui a le droit de donner des ordres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet cette législation, transmet ces ordres qui viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les ordres et les interdictions en islam, les fondements, les principes ne viennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que beaucoup de règles aujourd'hui, de pratiques, d'idéologies, de croyances ont en réalité été mises en place par l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. Allah Azza wa Jal dit, tel est Allah, votre vrai Seigneur, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il si ce n'est l'égarement? Et Allah dit, comment alors pouvez-vous vous en détourner? الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور. La deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est un serviteur, c'est un esclave d'Allah qui reçoit des ordres, qui les met en application et qui ordonne aux gens de les mettre en application. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas d'être divinisé. Al-fa'idatu al-rabi'a, qawluhu ta'ala umirtu, fal-amiru li rasulillahi kama qulna, huwa Allah. Wa idha qala as-sahabiyyu, umirna bikadha, aw nuhina an kadha, fal-amiru wal-nahi lahum, huwa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit umirtu, on m'a ordonné, forcément celui qui lui a donné l'ordre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière que quand le compagnon, lorsqu'on entend un compagnon dire umirna ou nuhina, on nous a interdit et on nous a ordonné, ici celui qui les a interdits ou celui qui leur a ordonné, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une leçon concernant la science du hadith. الفائدة الخامسة أنه يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف. La cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que pour devenir musulman et pour embrasser l'islam, il suffit de prononcer les deux témoignages. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. En comprenant le sens et ce qu'elle implique. Car ces deux témoignages sont le premier devoir que toute personne reconnue responsable doit accomplir. الفائدة السادسة أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَلِأَنَّ الْقَاعِدَةَ إِجْرَاءُ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَتَوَلِّي سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ. La sixième leçon à retenir concernant ce hadith. Toute personne qui embrasse l'islam et qui montre son appartenance à l'islam, on doit accepter son appartenance à l'islam. Et pour ce qui est de son fort intérieur, on doit délaisser cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci se trouve dans la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et s'il s'en acquitte, s'ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, alors ils préservent de moi leur bien et leur vie. Illa bihaq l'islam. Sauf dans des cas où l'islam permet de porter atteinte à ces choses. Wa hisabuhum ala Allah. Et leur jugement appartient à qui? Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fond intérieur de la personne, on le confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la règle en islam, c'est de juger les gens, sur leurs actes extérieurs et de délaisser le fort intérieur à Allah. Parce que personne d'entre nous ne connaît le fort intérieur des individus et des personnes. Al-fa'idatu sabi'a anna man azhara al-islam wa ata bi-shahadatayn fa'innahu yu'samu maluhu wa damuhu fa'in kana sadiqa zahiran wa batina nafa'ahu thalika inda Allah وإن كان الباطن خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. La septième leçon concernant ce hadith, c'est que toute personne qui manifeste son appartenance à l'islam et qui prononce les deux shahadatayn, alors c'est bien et sa vie seront préservées. Et s'il est véridique dans son témoignage et dans son appartenance à l'islam, intérieurement et extérieurement, alors son appartenance à l'islam et son témoignage lui seront bénéfiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que si l'intérieur est en contradiction avec l'extérieur, et s'il manifeste son appartenance à l'islam que par pure hypocrisie, alors cette personne sera dans les plus bas niveaux de l'enfer. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Wa hisabuhum ala Allah. Et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu thamina. Al-amru bil muqatalati ila husul ash-shahadatayn was-salati waz-zakat. Le huitième point à retenir concernant ce hadith, le hadith de Abdullah ibn Umar, c'est il a été donné l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils prononcent shahadatayn, les deux témoignages, et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat. Al-fa'idatu at-tasi'a anna man ibtana'a 'an daf'i az-zakat fa innahu yajuzu qitaluhu 'an man'iha hatta yu'addiha wa lidhalika qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu 'anhu alladhina imtana'u 'an az-zakah. La neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ceux qui refusent de donner la zakat, on parle de ça dans un pays musulman, ceux qui refusent de donner la zakat, alors il est permis de les combattre jusqu'à ce qu'ils s'en acquittent. Et regardez Abu Bakr radiallahu anhu, comme vous le savez, il a combattu les tribus arabes qui refusaient de donner la zakat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-fa'idatu al-ashira. أن المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها وأما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. Dixième leçon à retenir, c'est que le fait de combattre celui qui refuse de donner la zakat concerne celui qui refuse de la donner et celui qui combat, qui lutte contre les musulmans. Quant à celui qui refuse de donner la zakat mais qui ne combat pas, ces gens-là, on doit prendre la zakat leur est prise de force. Je répète encore une fois, ceci c'est dans le cadre d'un pays musulman avec un gouverneur qui pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-fa'idatu al-hadiya ashar. Al-farqu bayna al-qatli wal-muqatala. La onzième leçon, c'est qu'il faut faire la différence entre al-qatl, le fait de tuer, et al-muqatala, le fait de combattre. فَمَقْصُودُ الْمُقَاتَلَةِ الْإِذْعَانِ وَمَقْصُودُ الْقَتْلِ الْإِبَادَةِ وَالْمُقَاتَلَةُ أَنْ يَسْعَى حَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَالْقَتْلُ أَنْ يَقْتُلَ شَخْصًا بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ كُلُّ مَا جَازَتِ الْمُقَاتَلَةُ جَازَ الْقَتْلُ فالقتل أضيق والمقاتلة أوسع. Donc il y a une différence entre al-qatl, le fait de tuer une personne, et al-muqatala, le fait de combattre des gens. Le but recherché lorsque on combat les gens, c'est que les gens se soumettent. Alors que le but du qatl, de tuer, c'est le fait que la personne n'existe plus. Donc il y a une différence entre les deux. Et aussi, al-muqatala, le combattre, c'est pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Alors que le but du qatl, de tuer, c'est que cette personne n'existe plus. Et c'est pas toute personne qu'on a le droit de combattre qu'on a forcément le droit de tuer. D'accord ? Donc al-qatl, c'est beaucoup plus restreint que al-muqatala. Al-muqatala, c'est beaucoup plus large. Al-fa'idatu thaniyata ashar. Annahu la yajuzu muqatalat an-nas illa li asbabin shar'iyya. La douzième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que dans l'islam, on n'a pas le droit de combattre les gens, sauf pour des raisons établies par la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu thalithata ashar. At-talazumu bayna ash-shahadatayn. Wa annahu la budda minhuma ma'an. إذ العبادة لا تتم ولا تصح إلا بأمرين معا. الأمر الأول الإخلاص لله، وهذا من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والأمر الثاني المتابعة لرسول الله، وهذا من مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. 13e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que les deux shahadatayn, les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah, le premier témoignage, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, et que le prophète, et que Muhammad est le prophète d'Allah, le deuxième témoignage, ces deux témoignages vont de pair. Ils sont indissociables. Et ceci, parce que dans toute adoration, pour que cette adoration soit correcte et acceptée, elle doit obligatoirement être basée sur ces deux piliers. Le premier pilier, c'est al-ikhlas lillah, d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le sens de shahadatu anna muhammadan rasulullah. C'est le sens de lorsqu'on dit et on témoigne qu'Allah unique, il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement qui mérite d'être adoré, que toute forme d'adoration en dehors d'Allah est vaine. Et le deuxième pilier, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le sens lorsqu'on témoigne que le prophète, que Mohammed est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-fa'idatu al-rabi'ata ashar. Bayanu 'idami sha'ni as-salati wa az-zakat. La 14e leçon à retenir, ce hadith montre l'importance de la prière et l'importance de la zakat. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière et jusqu'à ce qu'il donne la zakat. Al-fa'idatu al-khamisatu ashar, ithbatu al-hisabi ala al-a'mal yawm al-qiyamah. Ay anna al-insana yuhasabu ala amalihi, fa in khayran fa khayr, wa in sharran fa shar. Wa hadha fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, wa hisabuhum ala Allah. La 15e leçon à retenir de ce hadith, c'est que dans ce hadith, il y a une affirmation du hisab, du jugement, que chaque serviteur, chaque personne, chaque individu, chaque homme, chaque femme sera jugé yawm al-qiyama sur ses actes et sur ses paroles. Et si la personne a fait du bien, inshallah, il y aura du bien. Et si la personne a fait du mal, il y aura du mal. Et ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wa hisabuhum ala Allah, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu as-sadisata ashar anna fil hadith raddan ala al-murji'a alladhina za'amu anna al-iman la yahtaju ila al-a'mal. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان ردا عليهم. La 16e leçon à retenir concernant le hadith, c'est que dans ce hadith, il y a une réfutation et une réplique aux gens qu'on appelle al-murji'a. Parmi les égarements des murji'a, c'est qu'ils prétendent que la foi n'a pas besoin d'action. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a cité ce hadith dans son authentique, dans Kitab ul-Iman, dans le livre de la foi, en réponse à l'égarement de ces gens sur leur mauvaise compréhension de la foi. Donc voilà pour ce qui est du hadith d'aujourd'hui. On va le lire une dernière fois, inshallah. An ibn Umara radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. Donc d'après le fils de Omar, Abdullah رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent et ce qu'ils témoignent La ilaha illallah, et que Muhammad est le prophète d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils donnent la zakat, et s'ils s'en acquittent, alors ils préservent de moi leur vie et leur bien, sauf dans le cas où l'islam permet de toucher à ces points. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et le jugement des gens appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين